Voilà, ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le deuxième livre le plus court de l'Ancien Testament. Vous savez, c'est lequel ? Non. Le livre... Non, l'Ancien Testament. C'est le livre d'Agée. Alors, c'est un peu avant le Nouveau Testament. Avant le Nouveau Testament, il y a Malachie. Avant Malachie, il y a Zacharie. Et avant Zacharie, il y a Agée. Et on va être plongé dans ce livre plusieurs dimanches, chaque fois que je vais prendre la parole dans les prochains temps. Un livre qui a été écrit à une période précise de l'histoire d'Israël. Mais ce matin, on va surtout s'intéresser au contexte historique de ce livre. À quel moment il a été écrit, pourquoi il a été écrit. Voilà, on ne va pas lire beaucoup ce matin, on va juste lire Agée chapitre 1, versets 1 et 2. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, ou l'Éternel des armées. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'on va d'abord s'intéresser au contexte historique de ce livre ? Eh bien, je crois que c'est vraiment une nécessité, chaque fois qu'on ouvre un livre de la Bible, de comprendre l'époque et les circonstances dans lesquelles ce livre a été écrit. C'est vrai que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu s'adresse à nous, qui vivons au XXIe siècle, mais les livres de la Bible ont été adressés à des publics précis, spécifiques. Et c'est pour ça que c'est essentiel de comprendre le contexte dans lequel les livres sont écrits. On va voir ce matin les circonstances donc dans lesquelles se trouve Israël et à quel moment ce livre a été écrit. On a des indications dès le premier verset. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée, au gouverneur, etc. Lorsque les autres prophètes écrivent, Ésaïe, Jérémie, ils situent toujours leurs écrits au moment de la royauté de certains rois d'Israël. Ésaïe écrit au temps d'Ézéchias, etc. Ici, il est parlé non pas d'un roi d'Israël, mais de Darius. Cela nous donne une indication précise du temps dans lequel nous sommes. Nous ne sommes plus au temps où Israël possède un royaume. Israël a été exilé au moment où Agée écrit son livre, suite aux désobéissances répétées du peuple de Dieu, suite à son idolâtrie, à son refus de se repentir, de revenir au culte monothéiste, au culte rendu à Dieu seul, suite à sa résistance face aux appels des prophètes, Israël a été abandonné par Dieu. Dieu avait déjà annoncé d'avance par Moïse ce qu'il allait arriver à Israël s'il se détournait de son Dieu. On va lire Deutéronome 28, rapidement, versets 36 et 37. Ce sont les malédictions de la loi qui ont été données à Moïse en même temps que celles que les bénédictions. Et nous avons ici l'annonce précise des siècles avant qu'elles se produisent de ce qui se passera pour Israël s'il se détourne de Dieu. L'Éternel vous enverra. « Toi et le roi que tu auras établi sur toi vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi ni tes ancêtres. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Tu seras un sujet d'étonnement, de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te conduira. » Voilà cette annonce. Israël avait été prévenu de ce qui allait se produire s'il se détournait de son Dieu. La déportation d'Israël s'est faite en deux étapes. La première étape s'est produite en l'an 722 avant Jésus-Christ. Elle a été le fait du roi d'Assyrie qui a déporté 10 des 12 tribus d'Israël. Après avoir assiégé la capitale du royaume du Nord, qui était Samarie, après un siège de 3 ans, 10 des 12 tribus avaient été déportées déjà. Cela n'a pas servi d'exemple pour les 2 dernières tribus. On voit que Juda et Benjamin, même si elles avaient des rois plus fidèles à Dieu que ceux d'Israël, s'est aussi détourné de Dieu au bout d'un moment, avec Manassé particulièrement, un des rois les plus terribles dont la Bible parle. Et donc en 586 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, selon les traductions, le roi de Babylone, est venu conquérir Israël. L'élite du peuple a été tuée, les habitants déportés, mais aussi quelque chose de beaucoup plus grave, Jérusalem a été entièrement détruite avec ses remparts. Le temple a été détruit, le temple magnifique de Salomon, et tous les objets cultuels et les richesses qui étaient dans le temple ont été pris par le roi de Babylone. La ruine a été totale. Au temps où Dieu se révèle âgé, nous ne sommes plus au temps de Nebuchadnezzar, mais au temps de Darius. Darius n'est pas un roi babylonien, c'est un roi perse. Pourquoi cela? Eh bien, il est arrivé au roi de Babylone, ce qui arrive aussi aux grands de ce monde. Après avoir dirigé le monde, Nebuchadnezzar est aussi tombé sous la coupe des Mèdes et des Perses. On lit ça dans le prophète Daniel. Et donc, maintenant, c'est le royaume perse qui a la tête, qui est l'empire qui domine le monde. Le premier roi du royaume perse a été Cyrus, et Darius, c'est le troisième roi de l'empire. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que Dieu avait déjà planifié tout ça. On l'a vu avec le Deutéronome, mais bien plus encore par la parole d'autres prophètes qui avaient annoncé à la fois la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, mais aussi le retour du peuple sous Cyrus, le roi de Perse. Même si Israël est corrigé, il n'est pas complètement abandonné. On doit toujours se rappeler de ça, que Dieu reste fidèle. C'est Paul qui le dit dans Romains 11, 29. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Quand il a choisi un peuple, il ne va pas le renier. Quel que soit le niveau de désobéissance, Israël reste le peuple de Dieu. On va lire Ésaïe 44, versets 28 à 45, verset 6. Pour justement voir ce que Dieu a dit à propos d'Israël, Israël déporté. Nous sommes ici 200 ans avant que les faits ne se produisent. Avant même qu'Israël soit exilé, voici ce que Dieu dit, donc dans Ésaïe 44, verset 28. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite et au temple que tes fondations soient posées. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, à part moi il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Imaginez ici que nous sommes près de 2 siècles avant que les faits ne se produisent. Dieu désigne déjà par son nom le futur roi de Perse, alors que c'est l'Empire babylonien qui dirige le monde à ce moment-là. Dieu annonce à Israël qu'après l'avoir corrigé, une nouvelle histoire peut commencer. Et cette histoire commencera avec un outil que Dieu va utiliser pour redonner à Israël un nouveau départ, c'est Cyrus. Cyrus qui ne connaît pas Dieu, tu ne me connais pas. C'est en l'an 538 avant Jésus-Christ que Cyrus promulgue un édit qui ordonne aux Juifs de retourner dans leur pays et de rebâtir leur capitale et leur temple. On va aller maintenant dans le livre d'Esdras, je vous fais un peu voyager ce matin. Esdras chapitre 1, où on a cet édit qui est écrit. Ce sont des paroles pleines d'encouragement, je trouve, ces passages. Esdras chapitre 1, versets 1 à 4. « La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, parce que Jérémie a aussi prophétisé sur ces temps-là, et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem, partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel. Les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Voilà donc le chef du monde entier, le chef du plus grand empire du moment, réveillé par l'Esprit de Dieu pour ordonner aux Juifs de retourner dans leur pays, de rebâtir leur capitale et leur temple. L'appel de Cyrus est entendu et le livre d'Esdras nous montre que 50 000 Juifs quittent Babylone pour repartir à Jérusalem et se mettre au travail. Ils repartent aussi avec les objets du culte qui avaient été emportés par Nabucodonosor et donc tout est là pour permettre un nouveau départ à Israël. Quelles sont les leçons qu'on peut déjà apprendre ici ? Une première leçon sur Dieu. Vous avez remarqué que lorsque Agé prend la parole, il parle au nom de Dieu, le maître de l'univers ou l'éternel des armées. Lorsque Cyrus donne son édit, il parle au nom du Dieu du ciel, du Dieu souverain. C'est exactement ce qu'est Dieu et on doit s'en rappeler. Le danger pour nous chrétiens, c'est de penser que Dieu n'est que notre Dieu, ou que le Dieu d'Israël. Certes, Dieu s'est fait un peuple et il est notre Dieu. Mais sa sphère de domination dépasse largement à la fois Israël et l'Église. Il est le Dieu de l'histoire, le Dieu qui est le maître du temps, des moments, le Dieu qui règne sur tous les états, tous les royaumes du monde, et qui décide des temps et des moments pour tous les chefs des nations. Dieu le dit, on l'a lu dans Ésaïe 45, « C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. » Et il dit à Cyrus, « Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » Nous voyons donc que Dieu a programmé d'avance tous les événements du monde. Il a suscité Cyrus, il l'a désigné avant même qu'il soit né, pour être ce roi qui allait donner à Israël l'occasion de reconstruire sa capitale et son temple. Ce n'est pas le seul événement que nous voyons conduit par Dieu de façon anticipée. Vous vous rappelez certainement de la naissance de Jésus à Bethléem. Pourquoi est-ce que Jésus est né à Bethléem? Eh bien parce que l'empereur César a édité un décret ordonnant le recensement de toute la terre. Et chacun devait aller se faire inscrire là où étaient nés ses ancêtres. Joseph et Marie ont quitté Nazareth sur l'ordre de César pour que Jésus naisse à Bethléem. Ce faisant, ils ont accompli la prophétie de Michée qui, des siècles auparavant, annonçait cela. Dieu tient le monde dans sa main et l'histoire du monde à l'heure près. Dans l'Apocalypse, au chapitre 9, verset 15, il est parlé d'un fléau qui va arriver dans le monde et il est écrit « Les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. » Apocalypse 9, 15. Les quatre anges qui étaient prêts pour le moment précis où ils devaient agir. Tout est déjà agencé, tout est déjà inscrit dans l'agenda de Dieu. Quand on voit ce qui se passe dans notre monde, on peut parfois s'inquiéter des menaces qui sont de plus en plus fortes entre les royaumes, les empires, les grands de ce monde qui s'affrontent. On doit se rappeler cependant qu'aucun d'eux n'est vraiment libre de ses mouvements et de ses décisions. Ce n'est ni Trump, ni Poutine, ni le dirigeant chinois, ni l'Europe qui décide de l'agenda des événements du monde. C'est Dieu en vue de l'accomplissement de ses projets. Le cœur du roi, c'est un proverbe biblique, Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alors certains rois nous semblent plus que des petits courants d'eau, hein, comme des grands fleuves, terribles, impétueux. Pourtant, ils sont dans la main de Dieu. Et la main de Dieu dans la Bible, c'est Jésus. C'est sa main qui nous sauve, c'est Jésus. Première leçon donc qu'on peut retirer de tout cela, c'est un enseignement sur la domination totale, la souveraineté totale de Dieu sur le monde. Une deuxième leçon, c'est sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est au cœur des projets de Dieu. C'est l'avenir de son peuple qui préoccupe Dieu par-dessus tout. Et Dieu le dit à Cyrus, « C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. » En fait, le règne de Cyrus n'a pas duré très longtemps, mais il a servi à une chose, c'est qu'il soit l'outil pour que le projet de Dieu de redémarrage d'Israël puisse se faire. devant nous rappeler que nous sommes au cœur de tous les projets et desseins de Dieu, le peuple de Dieu. Ce peuple, c'est Israël, bien sûr, mais c'est aussi l'Église. Paul le dit dans Éphésiens 2, 14. Il dit « Christ est notre paix, lui qui des deux groupes, les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé par la croix le mur qui les séparait. Désormais, par Jésus-Christ, juifs et païens peuvent devenir le peuple de Dieu parce que nous sommes tous réconciliés avec Dieu, justifiés sur la même base, sur le fondement de la mort de Jésus pour nous. » Alors il se peut que aujourd'hui nous n'ayons pas la vue précise et claire de tout ce qui se produit actuellement. Mais nous ne sommes pas livrés au hasard, rappelons-le. Nous ne sommes pas livrés au bon vouloir des dirigeants de ce monde. Le Seigneur prépare les prochains événements de son projet, de son plan, le retour de Jésus avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes au cœur de ce projet. Nous sommes au cœur de ce projet. Alors, on s'est arrêté à Cyrus. On va continuer notre réflexion à partir du livre d'Agée. Au temps donc où Agée parle, nous ne sommes plus sous Cyrus, mais sous Darius. Que s'est-il passé entre-temps ? Au départ, le peuple est revenu, plein de zèle, plein d'enthousiasme pour reconstruire le temple et les remparts de la ville. Mais très rapidement, des opposants se sont levés à ce projet. Il faudrait qu'on lise en parallèle du livre d'Agée, le livre d'Esdras et de Néhémie, où on voit vraiment cette opposition de plus en plus forte se lever. Au chapitre 3, l'autel des sacrifices, au chapitre 3 du livre d'Esdras, l'autel des sacrifices est rétabli et les fondations du temple sont posées. C'est précisément ce qui avait été prédit, vous avez vu, avec Ésaïe. J'ai dit à Cyrus, renvoie les Juifs dans leur terre et qu'il pose les fondations du temple. Cyrus est mort, les fondations étaient posées, mais le temple n'était pas construit. Après Cyrus, un autre roi s'est levé, Artaxerxès, qui a reçu de la part des opposants aux Juifs une lettre d'accusation, lui conseillant de faire arrêter immédiatement les travaux. On va lire cette lettre dans Esdras 4, si vous voulez, versets 17 à 24. Esdras 4. Voici la réponse envoyée par le roi à Rehum, le commandant, à Shimshaï, son secrétaire, et au reste de leurs associés installés à Samarie et dans le reste de la région située à l'ouest de l'Euphrate. Mes vœux de paix, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue distinctement devant moi. J'ai donné l'ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que depuis toujours, cette ville s'est soulevée contre les rois et a abrité des rébellions et des révoltes. De plus, il y a eu à Jérusalem des rois puissants qui ont exercé leur domination sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate et auxquels ont payé taxes, impôts et droits de passage. Ordonnez donc de faire cesser les travaux de ces hommes afin que cette ville ne soit pas reconstruite tant que je n'en aurai pas donné l'autorisation. Évitez toute négligence concernant cette affaire, afin que le préjudice porté au roi n'augmente pas. Une leçon qu'on peut apprendre pour nous, c'est que même si Dieu a à cœur un projet, le diable ne va pas rester inactif, et va tout faire pour décourager le peuple, pour l'intimider, et l'empêcher de continuer son travail. L'œuvre de Dieu se fait contre vent et tempête, jamais de façon facile, aisée, confortable. Elle peut même cesser et arrêter un temps, comme ici. Le peuple juif ne va pas aller contre l'ordre du roi. Ils vont devoir arrêter les travaux pendant 16 ans. C'est pas rien, 16 ans. Mais comme Cyrus, Artaxerxès n'est pas immortel, et lui aussi va mourir et laisser sa place à Darius, dont on a parlé. Darius, qui règne depuis 2 ans, quand Agé reçoit de Dieu cet appel à réveiller le peuple pour qu'il reprenne les travaux. Dans Esdras, chapitre 5, puisque vous êtes dans Esdras, on va lire les versets 1 et 2. Les prophètes, il n'est pas seul, Agé, il y a 2 prophètes qui se lèvent, Agé et Zacharie, le fils d'Ido, prophétisèrent à l'attention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Voilà, nous sommes en 520 ici, avant Jésus. Et donc, l'Esprit de Dieu s'empare d'Agé, de Zacharie, pour dire au peuple, il est temps de se relever, il est temps de repartir, de ne plus vivre dans cette passivité et de reconstruire la maison de Dieu. Au temps où Agé parle, on a une image de l'état d'esprit du peuple. Vous avez vu ? Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple dit, prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, après le beau départ, il y a eu cette opposition, cet arrêt, et il y a un certain fatalisme qui est entré dans l'esprit du peuple. Certes, Dieu avait donné des promesses, mais on s'était dit, peut-être c'est pour plus tard. C'est pas pour maintenant, à cause de l'opposition. Heureusement, ce n'était pas l'avis de Dieu, et Dieu donc a mis un terme à ce fatalisme en réveillant le peuple, en lui donnant l'ordre de nouveau de repartir pour reconstruire le temple. On va peut-être lire la lettre de Darius dans Esdras 6, versets 8 à 12. Je vais voyager ce matin. Mais je crois que c'est nécessaire de lire ces choses pour qu'on puisse avoir un tableau d'ensemble. Et vous verrez à quel point Dieu, là encore, intervient et agit dans le cœur d'un roi qui ne le connaît pas pourtant. Darius ordonna, il a fait des recherches, Darius, il s'est rendu compte qu'effectivement Cyrus avait donné l'ordre de construire le temple. Et voici ce qu'il dit. Maintenant, Tatnaï, toi qui es gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar, Boznaï et vos associés Darphak, etc., qui habitaient cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. Les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes au Dieu du ciel, jeunes taureaux, béliers, agneaux, blé, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem, jour après jour. Faites cela sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel, et qu'ils prient pour la vie du roi et ses fils. Et voici l'ordre que je donne concernant tout homme qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison, on la dressera pour l'y empaler, et l'on fera de sa maison un tas de décombres. que le Dieu qui fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret, à détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. C'est moi, Darius, qui ai donné cet ordre, qu'il soit fidèlement appliqué. Sévère. Sécurité maximale pour les Juifs. Là aussi, quelle leçon on peut apprendre pour nous? Une première leçon, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose subit des contretemps ou s'est arrêtée un temps qu'elle doit finir pour toujours. Dieu est capable de redémarrer les choses. Si une œuvre, un projet a été décidé par Dieu, quel que soit le temps qu'il prendra, il se fera. Dans Ésaïe 46, versets 9 et 10, il est dit « C'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis « Mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Il nous faut une vue à long terme. Parfois, le présent nous accapare et nous pensons que les choses ne bougent pas, que rien ne va se faire. Mais si Dieu a à cœur quelque chose, s'il a projeté quelque chose, alors il le mettra en œuvre et ce projet se réalisera. Dans bien des endroits où des missionnaires se sont rendus sur l'appel de Dieu, pendant peut-être des années, des décennies, ils n'ont rien vu. Certains sont morts même, sans voir le début d'une église se former. Je me souviens, moi j'ai entendu le témoignage de Charles Marsh. C'était un Anglais qui était allé en Algérie pour implanter des églises. Pendant 9 ans, il n'a rien vu. Après 9 ans, il y a 9 musulmans qui sont devenus chrétiens. Et l'un après l'autre a été tué par sa famille, par sa communauté. Et aujourd'hui, dans les lieux où Charles Marsh, qui est mort maintenant, a évangélisé, il y a des dizaines d'églises en Kabylie. Le projet de Dieu, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais si Dieu a à cœur quelque chose, s'il veut réaliser quelque chose, il le fera. L'œuvre de Dieu n'est pas linéaire, c'est pas une ligne continue. Il y a des hauts et des bas, parce que Dieu travaille avec des hommes aussi. Il y a des temps de progression, de stagnation, mais au final, l'œuvre de Dieu ne dépend pas des hommes, mais de sa capacité à réaliser ce qu'il veut. C'est pourquoi nous ne devons pas nous étonner des difficultés que nous rencontrons et ne pas baisser les bras pour autant. Si Dieu a voulu que nous existions en tant qu'Église, il va aussi poursuivre son travail jusqu'au but qu'il a fixé pour nous. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre ne l'arrêtera pas, dit Paul. Dans le livre de Zacharie, qui est parallèle à celui d'Agée, nous lisons, donc les paroles de Zacharie, c'est la même période. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Il y a parfois des petits commencements, on se dit, puis ça s'arrête. Mais Zacharie dit, ceux qui méprisaient ce jour seront étonnés en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Zorobabel qui construit le temple de plus en plus. Donc, leçon qu'on doit apprendre sur Dieu, et je crois que c'est avec cette vision qu'on doit travailler. Nous sommes juste des collaborateurs de l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas les décideurs. C'est lui l'architecte, c'est lui le fondateur, c'est lui le maître d'œuvre. Et nous sommes simplement ses ouvriers. L'Église n'est pas mon affaire à moi, hein, pas plus que la vôtre, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui décide des temps de croissance, des temps de stagnation. Mais il accomplira son projet. Une dernière leçon qu'on apprend ici, et je reviens sur cette phrase, que la première phrase que dit Agé, ce peuple dit, il ne dit pas mon peuple, il dit ce peuple. Comme si ce que disait le peuple ne correspond pas à ce que devrait dire son peuple. Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Il y avait plusieurs obstacles sur le chemin. Il y avait d'une part l'opposition qui était là, mais il y avait aussi l'état d'esprit du peuple. Et ce qui m'a frappé en lisant ces paroles, c'est le caractère collectif de la réflexion. Quand les gens se parlaient entre eux, ils disaient « Non, c'est pas encore le moment, non, c'est pas encore le moment. » Il y avait un état d'esprit apathique, en quelque sorte, défaitiste. Je crois qu'on doit aussi réfléchir à l'état d'esprit qui est le nôtre dans la vie chrétienne, dans la vie d'Église. Il y a à la fois un état d'esprit collectif, mais individuel. Parfois, l'état d'esprit collectif influence l'état d'esprit de chacun. Si nous sommes à plusieurs à penser une chose, alors bien sûr, ça fait plus de force. Hein, et on croit que la chose est vraie. Mais l'état d'esprit individuel aussi peut influencer le collectif. Si nous sommes dans un état d'esprit défaitiste, alors nous donnons une couleur grise à l'état d'esprit collectif. Si nous sommes positifs, pleins de foi, désireux de faire avancer l'œuvre de Dieu, alors nous entraînons les autres avec nous dans ce travail. Et je crois que c'est en ce début d'année une question qu'on doit se poser, quel est mon état d'esprit par rapport à l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis conscient que j'ai ma part à jouer dans la construction de l'Église? Est-ce que je mets cette priorité dans ma vie? Est-ce que je crois que Dieu est avec nous, qu'il agit et qu'il veut poursuivre son travail comme il l'a fait dans le passé? Pour ceux qui font partie de l'Église depuis un moment, vous savez qu'on a vécu bien des combats, des contretemps, des difficultés, des départs. Mais j'aimerais qu'on puisse être habité par l'esprit d'Agé et de Zacharie, qu'on se dise « c'est le temps, il faut qu'on soit là ». Agé et Zacharie étaient les seuls qui étaient connectés à l'esprit de Dieu. Et cet esprit s'est répandu, il a touché les autres et ils ont commencé à rebâtir ensemble. Ils se sont rappelés que Dieu est le maître de l'univers. Il n'est pas limité par les petits arrêts, les circonstances. Il a le temps dans sa main et tout pouvoir lui a été donné. Ce que je vous propose dans les prochains temps, et je voudrais vraiment vous encourager à vous joindre à cela. En semaine, donc, nous avons des études bibliques. En ce moment, nous étudions la vie d'Abraham, mais nous n'allons pas continuer avec Abraham. Je vous propose de commencer bientôt avec le livre de Néhémie. Nous allons voir comment un peuple peut reconstruire. C'est formidable. Et je vous encourage vraiment à prendre votre part dans ce travail, ces études ensemble, les moments de prière, on doit être ensemble si on veut que les choses progressent. Le peuple disait, c'est pas le temps. Pensez-vous qu'il y a vraiment un temps favorable? Parfois on pense, oh, peut-être on attend, puis ça va changer. Il n'y a jamais vraiment un temps favorable pour l'œuvre de Dieu. Il y a toujours des combats. Jésus est venu à une époque donnée, Il a été crucifié parce qu'il le devait. Mais les apôtres, était-ce le temps facile pour eux? Qui a été plus combattu et persécuté qu'eux? Les premiers témoins de Jésus, Étienne lapidé, Jacques tué par l'épée, Pierre crucifié, Paul décapité, et tous les autres avec eux. Le temps n'était pas facile, pas favorable pour l'Évangile. Il y a eu la réforme au XVIe siècle avec Luther et Calvin. Le temps était-il favorable? J'ai regardé dernièrement un documentaire sur la Saint-Barthélemy qui est passé sur France 2. 10 000 morts à Paris en une nuit, 10 000 chrétiens exécutés par le roi et par les catholiques dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Le temps aujourd'hui n'est pas plus favorable. Nos concitoyens ne craignent pas Dieu. Ils délaissent les valeurs de la Bible, les commandements de Dieu. Ils changent le bien en mal et le mal en bien. Mais nous avons avec nous le Dieu de l'univers, le maître du temps. Et je voudrais terminer avec cette invitation qu'on lit dans le livre de Néhémie, au chapitre 2. Alors, Esdras, vous êtes allé à Esdras. Néhémie, c'est un peu plus loin. Que ça puisse être un mot d'ordre pour nous aussi. Néhémie, chapitre 2, versets 16 à 18. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit alors, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Voilà, qu'on puisse ensemble travailler, être des témoins, nous unir aussi ensemble dans la prière, étudier la parole ensemble, nous fortifier, nous encourager. Quand le peuple a bougé, la main de Dieu a aussi agi et le temple a été reconstruit. Voilà, on va encore prier ensemble.